Vous écoutez
RMC. Les Paris RMC, midi 13h.
Georges Quirineau.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Salut à toutes et tous et bienvenue dans les Paris RMC, votre rendez-vous des parieurs et des parieuses, vous en avez l'habitude, tous les week-ends de midi à 13h. Je vous rappelle toujours que jouer avec excès comporte des risques, toujours à l'avoir en tête, bien sûr. Alors évidemment, on a toujours en tête et on est toujours un peu dans le jour d'après, la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face à Arsenal, la deuxième étoile, les célébrations aujourd'hui avec les fêtes, la fête au Champ de Mars à partir de 14h, la réception à l'Elysée et la fête au Parc des Princes ce soir à partir de 20h. Jean-Louis Tour et Valentin Jamin seront sur place, dispositif exceptionnel tout au long de la journée sur RMC. Mais nous, on va déjà se mettre en mode Coupe du Monde avec les Bleus, parce que c'est ça qui nous attend désormais. Vous savez qu'il y a un France-Côte d'Ivoire jeudi en match de préparation à Nantes. Ce sera à suivre sur RMC, bien sûr. Ce sera à 10 jours du coup d'envoi de ce mondial dont RMC est la radio officielle. On va parler aussi de Croatie-Belgique ce mardi. Ça y est, on révise ensemble. Hein. On révise ensemble, comme ça... on va pouvoir faire les malins ensuite avec les amis en disant bah oui, Modric il est toujours là. Et alors Roland Garros aujourd'hui et puis l'avant-dernière journée, le top 14 avec Toulon UBB très important aujourd'hui à 16h30 et Clermont Racing à 21h05 à suivre évidemment sur notre antenne. Ce sont des matchs déterminants pour savoir qui va jouer la phase finale du championnat de rugby, sans oublier le combo jackpot de Christophe et la banquerolle de la Dream Team. Les Paris RMC, le casting.
Les Paris RMC,
une belle tête de vainqueur.
Pascal Duprat a une belle tête de vainqueur toujours. Il est resté avec moi en plus. Ça va Pascal ?
Ça va Georges, très bien.
Ouais. T'as l'énergie là encore après 3 heures de grande gueule du sport ?
Ouais. Après 3 heures de Christophe Cessieux, j'ai encore de l'énergie.
On va le voir, on va y arriver. Christophe Payet est là. Salut Christophe, le maître des cotes.
Salut Georges, salut Pascal, bonjour à tous.
Salut Lionel Charbonnier, ça va Lio ?
Salut messieurs, ouais ça va, content de cette victoire du PSG.
Ouais bon, on a vécu une finale, on va dire différente de l'année dernière. Moi j'avais annoncé le nul sur cette finale, hein, les amis. Non mais Lionel, comment t'as apprécié cette finale ?
Je l'ai pas apprécié, j'apprécie juste la victoire. Moi j'en veux beaucoup à Arteta et Arsenal. Tu vois, j'ai eu la chance de débriefer le match pour le maintien de Nice la veille au soir, et puis ce match-là, j'ai trouvé qu'Arteta il avait rien fait de mieux, et Arsenal n'ont rien fait de mieux que de jouer un match pour le maintien, tu vois. C'était pas mieux, c'était pas avec la peur de perdre, alors que t'avais en face une équipe qui voulait gagner. Moi je regrette, mais je peux pas crier au génie d'Arteta qui a mis ce qu'il voulait en place, et il y a pas de souci, je critique pas ça, mais je trouve que ça a pas été un génie du football ce jour-là, enfin en tout cas hier. Moi j'ai assisté à une parodie aussi d'anti-football. Avec plus de 30 secondes voire une minute des fois pour faire une touche, une à deux minutes pour tirer un coup de pied arrêté, tout ça pour moi c'est non. Et heureusement, tu vois, on disait nous les génies du football aussi, hein, on est des petits génies, on disait que la vraie finale c'était contre le Bayern. Et ben je reste persuadé que la vraie finale c'était contre le Bayern, la vraie finale du football c'était contre le Bayern. Et heureusement hier les dieux du football sont tombés sur l'équipe qui a produit le plus de jeux, et bravo PSG, bravo, heureusement il y a les dieux du football qui existent encore.
Bon, mais il faut de tout pour faire du football, c'est pour ça que c'est un sport magnifique.
Mais bien sûr,
Pascal,
c'est un choix.
Si t'étais à la place de Luis Enrique là dans la zone technique, t'aurais pété un plomb à un moment donné. En fait, les yeux dans les yeux, la vérité.
Je pense que malgré tout, avant de répondre à ta question, je pense que ce sont les circonstances du match davantage que la tactique qui a été imposée.
Parce qu'il marque très tôt.
Il marque très tôt. J'ai l'impression que c'est du terrain, les joueurs qui, par réflexe, ont voulu protéger ce but. Les joueurs d'Arsenal ont voulu protéger ce but. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais fait?
Ils font ça toute l'année, Pascal.
Oui, ils font ça depuis le début de l'année. Le début de la saison. Précis.
Depuis qu'ils sont dans le dur. Depuis le début de l'année. Oui. Contre City, c'était la même chose. Ça a souvent été ça.
Hein. Bon, donc sur le banc, tu veux. je peux te dire qu'Arteta fait partie des entraîneurs qui m'énervent. Voilà.
C'est ce que je voulais savoir.
C'est tout ce que je voulais savoir.
Tu me rejoins. Non,
mais je parle du body, du langage corporel.
J'aurais adoré voir ça, les deux zones techniques, là. Bon, écoutez, voilà, la Ligue des Champions.
Dis-moi, Georges, j'ai une petite question.
Ouais.
Tu as souligné que tu avais pronostiqué le match nul et bravo. Mais tu n'as pas dit que j'avais dit les tirs au but à 4-5 ans.
Je le savais.
Mes
je
chers
savais,
amis.
Je savais très bien que ton ego allait te pousser à le dire. Alors que l'humilité de Pascal ne l'aurait pas fait.
Non, c'est pas une question d'ego du tout. C'est juste, vous étiez tous contre moi. À part toi, Georges, hein. Ouais. Messieurs, hier, vous étiez tous contre moi. J'avais plutôt imaginé ce genre
quoi,
de scénario.
Tu sais quoi, Christophe? Il y a eu un poteau contre nous.
Ah oui,
il y a eu un poteau contre nous.
Parce que les arbitres, c'est des poteaux. Pas grand chose. Mais c'est vrai que
l'arbitre a été
pouvait quand même s'attendre à
bravo,
ce que
bravo,
cette équipe
bravo,
d'Arsenal
Christophe.
Donne de grosses difficultés au PSG.
Bravo Christophe. C'était à 4,50 la victoire en tir au but du PSG?
Non, juste les tirs au but, 4,50. Sinon la victoire, c'était 9 pour le...
Mais tout ce que tu avais prédit est arrivé, Christophe, bravo.
Malheureusement pour ma bankroll, je me suis trompé sur le match de Diane Paris en tennis.
Bon, pas tout, du coup.
C'est quand même un énorme exploit de battre à Nice.
Donc t'es bidon, t'es comme nous.
Voilà, exactement.
Allez, tout de suite, les Paris RMC en mode Coupe du Monde.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Eh ben dis donc, je sens qu'on va se déhancher avec ce jingle de la Coupe du Monde pendant quelques semaines. Voilà, ça y est, RMC là s'est mis en direction des États-Unis, du Mexique et du Canada pour la Coupe du Monde qui va débuter. Aujourd'hui, on a une affiche, c'est France-Côte d'Ivoire, parce que c'est un match de préparation des Français jeudi à Nantes à 21h10. Ce sera évidemment à suivre sur RMC. Ce sera à 10 jours du coup d'envoi de ce mondial. On va parler comme ça de la Coupe du Monde. Mais peut-être on a des codes sur ce match, mon cher Christophe.
Alors pas toutes, évidemment. On n'a pas les buteurs, on n'a pas les joueurs décisifs, mais on en a quand même quelques-unes. 1,24, la victoire de la France contre la Côte d'Ivoire. Le nul est à 4,40 et la victoire ivoirienne est cotée à 7. Et on a déjà 98% des parieurs qui ont joué la France.
Voilà, évidemment, ça montre aussi le statut de la France. Aujourd'hui, fait partie des favoris de la Coupe du Monde. Je rappelle, la France dans le groupe du Sénégal, de l'Irak et de la Norvège. La Côte d'Ivoire est une équipe qui va à la Coupe du Monde aussi, avec l'Allemagne, le Cap-Vert et l'Équateur dans son groupe. Tiens, on va se poser cette question. On va commencer la Coupe du Monde ensemble, les amis. Parce que c'est vrai que Didier Deschamps a mis une petite piqûre de rappel avant-hier. Je ne sais pas si vous l'avez vu à Claire Fontaine en disant « J'aime pas trop le fait là... » J'ai l'impression que tout le monde donne rendez-vous déjà à fin juillet pour la finale, comme si tout était fait. Est-ce que les Bleus ont vraiment un point faible? C'est la question que je vous pose aujourd'hui dans les paris. Pascal Duprat?
Non.
Lionel Charbonnier?
Ouais, je pense.
Christophe Payet?
Oui, aussi.
Oui, moi aussi. Un petit oui, comme ça, avec flegme. Très bien, les amis. On rappelle, ça commencera face au Sénégal, pour les Bleus. Les Sénégalais, d'ailleurs, qui se sont déjà envolés pour les États-Unis, vont avoir un match de préparation, justement, face aux Américains. Les Bleus ont-ils vraiment un point faible? Tu dis oui, Lionel. Pourquoi?
Parce que, tout simplement, alors je vais lui tomber dessus encore une fois, mais il fait tout pour. Je pense que Kylian Mbappé a encore pas la bonne, a pas compris ce que c'était qu'un capitaine. Quand je vois ses déclarations, je suis prêt pour le mondial, je vais emmener mon équipe le plus loin, très très loin. C'est la première fois de ma vie de footballeur que j'entends un capitaine qui emploie le jeu. Et il y en a qui peuvent très mal le prendre. Ça, c'est la première des choses. Pour parler en extra football, en communication. Jusqu'à maintenant, j'en ai pas eu beaucoup, parce que j'ai pas fait beaucoup de clubs. Mais à chaque fois, le capitaine, il disait nous. Et nous allons faire.
Lionel, je te coupe deux secondes. Moi, j'ai souvenir qu'en 1985, avant la Coupe du Monde 86, Platini était le capitaine de l'équipe de France. Et il y avait un match décisif qualificatif contre la Yougoslavie. Et il avait annoncé la veille du match qu'il allait marquer deux buts et que la France allait se qualifier. Et la France a gagné 2-0 sur un doublé de Platini. Donc peut-être que Mbappé, Platini, avec un petit ego quand même, c'est pas une critique envers Michel Platini qui pour moi est le dieu du foot en France, mais quand même peut-être que Mbappé n'était pas le premier.
Mais alors où est-ce que tu l'as entendu dire ça, Lionel? Parce que
c'est dans une conférence de presse.
D'accord.
Dans une conférence de presse, certain. Hein. Je vais vous le mettre
du
sur
Real
le WhatsApp,
ou
de si
la
vous
de la Fédé.
De la Fédé.
Ah oui. Parce qu'il est pas venu en conférence de presse, qui a mappé encore. Hein. C'était Didier Deschamps.
Je vais vous le mettre. Vous allez voir. C'est la première des choses. Extra football dans la com, je n'y arrive plus. Il m'a complètement perdu. Et la deuxième des choses, parce que ça peut irriter certains. Et footballistiquement parlant, selon comment ça devrait se passer sur le terrain, est-ce que ça va pas inhiber encore une fois les prestations de certains, comme ça l'a fait au PSG, comme ça l'a fait déjà en équipe de France. Alors oui, il m'a des buts, il en marque plein, il en marque 50 à l'année, il risque d'en marquer peut-être une dizaine ou une quinzaine, je sais pas, à la Coupe du Monde, mais si c'est au détriment d'en avoir 20, c'est-à-dire 4 joueurs qui vont marquer 5 buts chacun, et qui au résultat ça te fait plus, donc je dis oui, ça pourrait être, attention, moi j'attends que Mbappé se fondent dans un collectif comme il l'avait fait au tout début, et où le maître du jeu c'était le sélectionneur et non pas un joueur.
Bon, ok. Pour toi, le point faible du coup, ce serait peut-être la place, le trop plein de place que pourrait prendre Kylian Mbappé. Même si sur la phase de qualif, on l'a plutôt vu intéressant. Le Français, on rappelle, hein, qui avait marqué un triplé en finale de la dernière Coupe du Monde. Pascal, est-ce que tu es d'accord avec Lionel ou...
Non, parce que moi, je vois pas de point faible à cette équipe de France. Donc, je vois au contraire, et encore davantage depuis que le PSG a gagné une deuxième Ligue des Champions consécutivement hier, je vois plutôt leur capitaine, en grand capitaine, faire une grande Coupe du Monde avec tous ses coéquipiers pour tenter, pourquoi pas, de glaner le Ballon d'Or, parce qu'il est peut-être à portée de fusil pour Mbappé s'il fait une grande Coupe du Monde. Et puis, on peut prendre toutes les lignes. Deuxième argument de cette équipe de France et de ses joueurs sélectionnés. Moi, je vois pas d'égal au monde. Je vois pas de nation, y compris l'Espagne, capable de présenter autant de joueurs de qualité dans toutes les lignes. Un sélectionneur qui s'en va, qui veut finir et qui va être hyper motivé, hyper intransigeant, hyper précis, qui veut finir sur une bonne note, avec ce que certains ont appelé la chance de Dédé, pour ne pas dire mieux, mais je vois pas pourquoi ça le servirait pas encore une nouvelle fois. Donc moi je vois tous les feux au vert, ça sera une compétition bien sûr difficile, mais je vois l'équipe de France être la meilleure nation, en tout cas la favorite, logique.
Cette équipe, elle fait peur au monde entier. Hein. Il faut en être conscient et pas avoir peur d'en être conscient. Christophe, pourquoi toi tu dis que les Bleus ont un point faible ?
Peut-être, je me pose la question, peut-être que au niveau de la défense, on pourrait faire mieux. Les Français, cette saison, en 8 matchs, n'ont fait que 3 clean sheets. Et surtout, ils ont pris des buts contre des équipes comme l'Islande, comme l'Azerbaïdjan, la Colombie et le Brésil évidemment. Mais je suis pas persuadé que la défense française soit au niveau éventuellement du milieu et surtout de l'attaque évidemment, parce qu'on attaque. On a quand même sur le papier en tout cas une attaque stratosphérique.
Bon, après,
je viens de retrouver Georges. Le truc, hein. La déclaration, c'est « Je suis prêt pour la Coupe du Monde, prêt à emmener de nouveau mon équipe sur la plus grande scène. »
Oui, quand et où, Lionel, parce qu'on peut en parler après si tu veux, mais effectivement, pour la déclaration de Kylian Mbappé. Juste sur ce que disait Christophe, sur la défense de l'équipe de France, Saliba, Upamecano, Konaté... Ouais,
sur le papier, c'est bien.
Sur le papier, non mais c'est vrai que là, tu parles des qualifs où on a pris des buts contre l'Azerbaïdjan et l'Islande. Alors, c'est des moments où les Bleus ont pas beaucoup de temps de préparation. Là, ils ont beaucoup de temps ensemble, une longue compétition. C'est des moment où tu installes des charnières, Pascal.
Georges, il faut aussi prendre en considération que tous ces joueurs-là vont élever leur niveau. Saliba est très performant en club, joue dans un club qui était finaliste de la Ligue des Champions, qui a retardé l'échéance hier contre le Paris Saint-Germain. Upamecano au Bayern, bon, il fait mieux que se révéler, c'est le taulier. Donc cette défense et l'ensemble des joueurs qui la constituent, je pense que c'est au contraire un point fort et une capacité chez eux à élever le niveau, tout simplement. Le niveau de la Coupe du Monde, ils l'auront. Ah non, point douté.
Lionel, toi, la défense des Bleus, t'as confiance en cette défense ?
Oui. Dans l'axe, j'ai confiance. Je les trouve de plus en plus performants, très, très complémentaires. Moi, Saliba, je rejoins Pascal. Je pense que c'est l'un des meilleurs. Il est dans le top mondial.
Sur le papier,
dans
les c'est 5. Indiscutable. Hein.
Et donc, après, mais ce qui me fait peur, moi, c'est ça va être les côtés. Comment ça va se passer sur les côtés? C'est ça qui me fait un petit peu pleurer, la prise des couloirs défensivement. Mais après, tout dépend. Ça dépendra aussi de la conception de Dédé. Et s'il continue de rester dans le principe où il faut en marquer beaucoup plus que ce qu'on va en prendre. S'il reste comme ça, on a vraiment une très très belle attaque. Et je pense qu'on est capable d'en marquer plus que ce qu'on peut prendre.
Bon, et donc on a une préparation avec ce match face à la Côte d'Ivoire. C'est jeudi. Hein. On rappelle que ceux qui ont participé à la finale Ligue des Champions devraient arriver mardi à Clairefontaine. Bon, là, évidemment, il y a des festivités aujourd'hui. Demain, on va se reposer un petit peu et ensuite se mettre en mode Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match, Christophe? On a des choses à raconter sur ce match pour les auditeurs.
Écoute, ça sera la quatrième confrontation. On peut se souvenir que la première fois, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2005, c'était le fameux match France-Côte d'Ivoire en préparation pour la Coupe du Monde 2006 où Zidane, Makelele et Thuram étaient revenus en équipe de France. On peut dire que l'équipe de France cette saison a gagné 7 des 8 matchs disputés, il y a eu un seul nul, donc une équipe de France invaincue qui a marqué quand même pas mal de buts, 21. Et puis cette équipe de Côte d'Ivoire a joué des équipes forcément un petit peu plus faibles que les adversaires de la France, mais le bilan est très bon aussi, hein, 9 victoires, 2 nuls et 2 défaites avec pas mal de buts marqués. Mais je pense que cette équipe de Côte d'Ivoire, par exemple, est capable de marquer un but à la France, moi, sur ce que j'ai dit précédemment. Et la France qui gagne 1-24, la France qui gagne et les deux équipes marquent, on passe à 2-55. Donc, ça peut être très intéressant si vous voyez éventuellement un but ivoirien.
Ok, donc pour cette prépa à Nantes, ça fait toujours peur, hein, ces matchs de préparation sur les blessés ou s'il peut se passer quelque chose. On a eu des mauvaises situations par le passé, hein, souvenez-vous, avec Djibril Cissé notamment à Saint-Etienne. On croise les doigts évidemment, on touche du bois pour que tout se passe bien pour la bande à Didier Deschamps. Tiens, on va lancer les My Match, les amis, sur ce France-Côte d'Ivoire, 21h10, jeudi. Pascal, qu'est-ce que tu vois sur cette rencontre?
Je vois bien entendu la France l'emporter, Mbappé buteur et Olise décisif.
Voilà. On aura la cote bientôt, hein. Évidemment, le match a lieu jeudi.
Ouais, mais au moins vous avez déjà le ticket de Pascal. Lionel.
Eh ben, t'as le mien en même temps.
Le voilà. Même, c'est vrai que vous avez le même ticket.
Le même.
C'est incroyable.
Exactement.
Ça. Bah, c'est ouais. Quoi, hein. Christophe.
Ouais, je pensais la même chose. Et je me suis dit, allez, je vais quand même me différencier un petit peu. Et je dirais que la France gagne et les deux équipes marquent avec un but d'Mbappé.
Ok.
Là, on sera sur une cote supérieure à 3, puisque déjà avec les deux marques, on est à 2,55.
Tiens, on va faire notre bataille des supporters de l'équipe de France avec Fanch et Damien qui nous rejoignent 32-16. Bonjour messieurs.
Bonjour messieurs.
Damien, c'est toi qui as appelé en premier. 30 secondes pour nous convaincre. Qu'est-ce que tu nous proposes?
Alors, moi, ça va être rapide. C'est la France qui gagne moins de 4,5 buts dans le match et Mbappé qui marque. On n'a pas encore la cote, mais c'est mon my match. Je mets pas les deux équipes marques parce que je me couvre du 1-0 tout pourri parce que c'est un match de préparation. Les joueurs viennent de finir la saison. Il manque les joueurs du PSG. Il manque les joueurs d'Arsenal. On sera pas au complet. Donc, c'est pour ça que je vais me couvrir en mettant moins de 4,5 buts. Je pense que ça fera pas plus de 3-1 dans le match.
Ok, on n'a pas les cotes encore, Christophe, on est d'accord. Hein, là, non, du coup, non. On prend le pari. Donc, Mbappé qui marque et moins de 3,5 buts dans le match. Fanch, on t'écoute. Qu'est-ce que tu nous proposes?
Moi, je vois une victoire de l'équipe de France qui encaisse quand même, donc les deux équipes qui marquent. Et sur le score, je verrais bien un 3-1. 3-1 pour l'équipe de France. Je pense qu'ils encaisseront un but parce qu'ils encaissent pratiquement à chaque match au moins un but. Et je pourrais même rajouter Mbappé buteur parce que je pense que Mbappé, alors même si c'est difficile en sélection sur une en club sur une saison, c'est un joueur de tournoi donc il marquera. Donc 3-1 pour les Bleus.
3-1 pour les Bleus. Ok, c'est noté. Qui vous a le plus convaincu? Est-ce que c'est Damien, notre premier auditeur, ou Fanch, notre deuxième auditeur? Pascal.
Fanch.
Lionel.
Ouais, le 3-1, allez.
Le 3-1, donc ça fait 2 points pour Fanch. Christophe, je te demande.
3 points, puisque c'est exactement quelque chose vraiment.
Ah oui, ça m'aurait fait peur si jamais t'avais dit quelque chose complètement différent. Bah, bravo Fanch, c'est toi qui remportes les 20 euros sur le site de notre partenaire. Félicitations.
Merci beaucoup.
Et Damien, tu repars pas les mains vides, tu repars avec 10 euros sur le site de notre partenaire. Bravo à toi.
Merci.
La Coupe du Monde, évidemment, ce sera sur RMC, radio officielle de la compétition. Voilà, on a ce dimanche de célébration du Paris Saint-Germain à suivre sur RMC, évidemment, de célébration du deuxième titre en Ligue des Champions. Et ensuite, on sera complètement engagé dans ce mondial à venir aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Dans un instant, on va à Roland Garros sur RMC. On va parler du top 14 également. À tout de suite.
Les Paris RMC, midi 13h.
Georges Quirino.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les Paris RMC avec Pascal Duprat, avec Lionel Charbonnier, avec Christophe Payet au lendemain de cette deuxième étoile brodée sur le maillot du Paris Saint-Germain. Les célébrations à suivre tout au long de la journée sur RMC. Ils vont arriver à l'aéroport à Roissy dans quelques temps maintenant. Ensuite, il y aura le Champ de Mars pour être avec le public des 14h. On attend 100 000 personnes. Ensuite, l'Elysée et le Parc des Princes ce soir à 20h avec Jean-Louis Tour et Valentin Jamin qui vous feront vivre toute cette séquence. Évidemment, vous ne ratez rien sur notre antenne. Mais tout de suite, on continue dans les paris RMC. Et ben, on va continuer de parler de la Coupe du Monde. Vous savez quoi, les gars, avec les matchs de préparation qui s'enchaînent, hein, là, les équipes commencent à se rapprocher de plus en plus des États-Unis. Hein. Les Argentins sont partis ce matin pour le Kansas. Tiens, il va faire chaud là-bas hein, pour jouer leur match, notamment face à l'Algérie, le premier match de la compétition. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est Croatie-Belgique. Tiens, un match très intéressant mardi de préparation. Christophe, on a les cotes?
Oui, 2,30 la victoire de la Croatie, 3,25 le match nul et 2,40 la victoire de la Belgique. Et étonnamment, la Croatie n'a recueilli que 19% des suffrages, 28% pour le nul et 53% voient la Belgique s'imposer.
Ok, Croatie-Belgique. Bah écoutez, on va écouter Lionel sur ce match. Qu'est-ce que tu nous proposes, Lionel?
Bah écoute, c'est difficile hein, de se pencher là-dessus parce qu'on connaît pas le degré de préparation de ces deux équipes. Maintenant, l'expérience me fait regarder quand même sur ce qui va se passer en poule. Et donc se projeter, j'essaie de me projeter et d'anticiper. Je regarde que la Croatie joue l'Angleterre d'entrée, ouais, et le Panama juste après. Donc il va falloir quand même qu'ils soient, attention le Panama, il va falloir que ces Croates soient très en jambes très rapidement.
Ouais, ils ont le Ghana dans le groupe aussi, hein, donc c'est vrai que ça peut
et le Ghana pour le troisième match. Mmh. Ouais, ça sera le troisième match. Et puis je regarde en face, la Belgique a l'Égypte au premier match, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Je me dis que la Belgique pourrait faire une préparation foncière un peu plus poussée pour aller un petit peu plus loin et tu vois, et être en jambes un peu plus tard. Donc je pourrais voir des Croates un peu plus en jambes tout de suite. C'est pour ça que je vais aller moi sur la Croatie ne perd pas, moins de 3,5 et Kramaric buteur, c'est une cote à 6. Je pense pas que ce soit, pourquoi de moins de 3,5, parce qu'il va pas y avoir beaucoup de contacts, on va pas aller, tu vois, un match très engagé, tout ça. Donc c'est pour ça que je dis pas beaucoup de buts.
Ok, c'est côté à 6 que tu nous proposes, Lionel. Pascal, est-ce que tu es d'accord avec Lionel? Oui, tu as été convaincu?
Je prends.
Oui. Tu prends?
Oui.
Et Christophe?
Oui, moi aussi, et je suis vraiment convaincu par l'argumentaire de Lionel. Je trouve ça judicieux penser comme ça.
Bah oui, de penser avec les matchs qui arrivent effectivement.
C'est difficile, hein, on ne sait pas. Hein, à la Coupe du Monde. Sont fait, mais on essaie d'anticiper avec l'expérience.
La Belgique entraînée, je vous rappelle, par un certain Rudy Garcia, donc sélectionné alors, en tout cas de cette formation des Diables Rouges, donc que l'on reverra à la Coupe du Monde. Hein. On se rapproche de cette Coupe du Monde, évidemment, on est toujours en plein Roland Garros. On va retrouver Eric Salio à la Porte d'Auteuil. Salut Eric.
Salut à tous.
Salut Eric. Eric.
Salut Eric.
Donnée très importante déjà. C'est fini la canicule à Roland Garros?
Oui. Absolument, on a retrouvé de la fraîcheur et croyez-moi, ça fait beaucoup de bien.
Ça fait beaucoup de bien aux joueurs. Non, mais c'est quoi, il fait 25 degrés, joueurs, c'est ça?
Nous, on s'en fiche. Ah,
ouais. Non, mais il fait moins de 30 degrés, ça, il fait quoi? Il fait 25 degrés.
Non, il fait un petit 23-24, je crois, je sais pas, à peu près. Non, non, mais là, c'est. On est en Bermuda quand même, parce que.
Oui, parce qu'il y a.
On ne change pas la tradition, mais on respire.
Bon, évidemment, l'histoire.
Il y a une autre info, puisqu'on a les infos. On a à l'affiche de la Night Session demain soir. Ce sera un match féminin.
Ah!
Eh oui! Aryna Sabalenka contre Naomi Osaka. Franchement, c'était prévisible et bravo aux organisateurs.
Ah bah super match, hein. Sabalenka face à Osaka. Effectivement, un match qui peut bien durer. En plus aussi, ça peut faire plaisir aux diffuseurs et aux spectateurs, cette rencontre. J'ai cru que t'allais me dire que on allait avoir notre française en night session demain, puisque Diane Paris donc est la dernière représentante de la France dans ce tournoi, dans le tableau masculin et tableau féminin. Elle sera opposée à la polonaise Szwalińska demain en huitième de finale. Christophe, qu'est-ce que tu veux nous raconter sur ce match?
Eh bien, déjà vous dire que Szwalińska, pourtant 114e mondiale, est favorite à 1,52 face à Diane Paris qui est mieux classée, 92e. Szwalińska a déjà joué 6 matchs ici puisqu'elle est passée par les qualifications où elle a battu deux françaises, et puis ensuite elle a dominé Zeng, Mertens et Sakkari. Donc très très beau parcours pour cette joueuse quasi inconnue qui est au-delà de la 100e place mondiale. Mais 7 matchs d'affilée, ça me paraît quand même un petit peu compliqué pour elle, même si son bilan sur la terre battue est bonne. Mais c'est une joueuse qui joue essentiellement des matchs dans des tournois des WTA 125 au mieux. 13 victoires en 15 matchs sur terre. Elle a remporté notamment le tournoi d'Oeiras du côté du Portugal. Et puis Diane Paris, elle a réussi l'exploit de battre Anisimova, 7-6 au troisième, donc peut-être un petit peu de fatigue, mais bon, quand on gagne, c'est plus facile. Et surtout, elle a 9 victoires sur les 10 derniers matchs disputés sur terre battue. Donc, je prends la grosse cote, victoire de Diane Paris à 2,30. Et pour faire monter à presque 3, je rajoute plus de 7 jeux dans le premier set et plus de 18 dans le match, parce que ce sera pas une partie de plaisir non plus, ça peut être un peu long.
Donc, tu vois Diane Paris se qualifier en quart de finale de Roland Garros. Tiens, juste un petit tour de table, on va l'écouter. Eric Salio, Pascal,
t'es convaincu, oui.
Lionel?
Oui.
Eric, alors qu'est-ce que tu en penses, Diane Paris? Dans le tableau, c'est ouvert en plus, hein?
Oui, c'est grand ouvert. Quand tu bats Anisimova, tu ne peux pas t'arrêter contre une qualifiée.
C'est ça.
Même si cette fille est peu connue, elle a d'énormes qualités, c'est une gauchère. Et c'est pour ça que Diane Paris s'est entraînée ce matin avec une gauchère à jambon, évidemment.
Quel investigateur.
Tu fais le job, c'est normal. Ou à gaucher, pardon. Un gaucher. Un sprinkler gaucher.
C'est pas pareil, du coup.
Non, mais c'est pareil, il est gaucher. Non, elle est très dangereuse, elle adore les effets. Mais je sais pas, il y a un effet Paris, on est d'accord là. En plus, Diane, elle a gagné énormément de matchs sur le central, puisqu'on parle de ses 3 victoires cette année, mais il y a eu aussi une victoire contre Krejcikova. Ça remonte, mais Diane, c'est une coupeuse de tête. Et puis, elle commence vraiment à avoir ses repères sur ce court, alors que Szwalińska, elle va découvrir l'enceinte du... Parce que ce sera sur le central, hein, bien sûr, le match, hein, demain après-midi. Moi, je pense que Diane va pousser un peu plus, là.
Je suis même étonné qu'elle ne soit pas favorite.
Bah oui, tu m'as surpris, là.
Je disais que le tableau s'est ouvert parce que Coco Gauff, qui était une adversaire potentielle en quart de finale, vainqueur sortante, a été sorti hier de Roland Garros. Donc c'est vrai que bon, est-ce que ça peut être la Loïs Boisson de cette année, Eric? Je sais pas, toi qui la connais, c'est vrai que Diane Paris, le grand public la découvre un petit peu. Hein. On nous dit que c'était un espoir qui a peut-être pas confirmé tout de suite, mais c'est une fille qui a été, je me rappelle, menée 6-0 au deuxième tour sur le Châtrier avant de renverser la rencontre. C'est une fille avec un talent et du mental.
Non, mais moi, tu me connais un peu, j'ai tendance à m'emballer.
Mais oui.
Et quand elle avait battu Krejcikova...
Eric l'avait annoncé déjà depuis quelques semaines, hein, Paris.
Oui, mais...
Je l'avais dit, Eric.
Bien sûr. Quand elle avait battu Krejcikova, je m'étais emballé, j'avais dit, c'est la nouvelle Amélie Mauresmo. Bon, parce qu'elle a un revers à une main absolument exceptionnel. Elle a le plus beau slice de revers du circuit et ça enquiquine les joueuses, tu peux même pas imaginer. Mais elle a eu quelques petits pépins, hein. Peut-être un manque d'ambition aussi. C'est une fille qui est assez timide, assez réservée, mais elle a petits pépins à droite, à gauche. Et c'est vrai qu'elle avait du mal à confirmer. Elle végétait entre guillemets aux alentours de la 100e place mondiale, alors qu'elle a un potentiel énorme. Mmh. Et là, depuis qu'elle est avec Julie Coin, ça marche fort. Donc moi, je pense qu'elle va poursuivre sa route. Et puis, puisque tu parlais du tableau ouvert, il est très possible que je t'annonce dans une vingtaine de minutes qu'il y aura une vainqueur inédite.
Oui, c'est ce que j'allais te demander, parce que ça joue Iga en ce moment sur Châtrier.
Est en énorme difficulté. Elle est au bord du précipice, 7-5, 4-1 pour Marta Kostyuk, l'Ukrainienne, qui avait gagné Madrid, on s'en souvient. Derrière, elle s'était reposée Et là, elle est en train de déboulonner la polonaise.
Marta Kostiuk, donc tu Eric, tu nous avais annoncé comme favorite pour.
Bien sûr, pour je suis pas mal finalement.
Ouais, alors. C'est vrai. Bah, je pense que c'est pour ça que tu es spécialiste tennis. Hein. Tu dois être là pour ça. Bon, on va voir si tu as le nez creux également pour la night session de ce soir. Ce sera là une affiche intéressante hein, aussi entre Casper Ruud et Jean Fonseca, le tombeur de Novak Djokovic au tour précédent. Christophe Lécotte, et qu'est-ce que tu nous proposes?
1,56 la victoire de Ruud, 2,40 la victoire de Fonseca, aucune confrontation entre les deux joueurs.
Ah oui.
Ils ont joué tous les deux le même nombre de sets, 13 depuis le début de la compétition. Ils restent tous les deux sur un match en 5 manches, Ruud contre Paul et Fonseca contre Djokovic. Mais Ruud a gagné beaucoup plus de matchs sur terre battue, 16 sur 20, alors que João Fonseca, lui, c'est 8 sur 12. João Fonseca, il a un talent exceptionnel, on attend toujours qu'il fasse quelque chose, mais ça marche jamais. Bon, là, il l'a fait, puisqu'il a battu Djoko, mais je pense qu'il aura du mal à enchaîner. Et que Ruud maintenant avec les tableaux qui se sont qui ont éclaté, je vois Ruud s'imposer mais en 4 ou 5 manches, on passe de 1,56 à 2,20.
Ok, est-ce que vous êtes d'accord avec Christophe, Pascal?
À partir du moment où il a battu Djokovic, ben je suis son supporter Fonseca.
Et moi j'y crois un peu aussi là, l'euphorie post-victoire de Djokovic, les genres de victoires qui te fait passer dans une autre dimension. Lionel?
Fonseca, attention à lui. Ouais, attention. D'accord.
Eric, qu'est-ce que tu en penses?
Écoute, il y a eu. Casper Ruud a déjà été miraculé à deux reprises. Au deuxième tour, il a pris une insolation et on ne sait pas comment il s'en est sorti. Et au tour précédent, contre Tommy Paul, il sauve deux balles de match. Je crois que ça va s'arrêter. Et en plus, Fonseca, c'est un talent inouï. Je pense qu'il va être porté par la vague après son succès contre Novak Djokovic. Parce qu'on ne l'a pas assez dit. La qualité de jeu était hallucinante.
Ah bah,
vraiment hallucinante. Donc moi, je pense que Fonseca a toutes les armes pour stopper le Norvégien, même si le Norvégien va retrouver un climat un peu plus habitué. Oui. Parce que sur son match contre Safiulin, mais j'ai cru qu'il allait défaillir.
Ah, il a souffert de la chaleur.
Ah, là, le pot, il m'a fait de la peine. Hein.
Alors, ouais, là, Eric, ouais, il va retrouver un climat qu'il apprécie plus, mais le climat dans les tribunes sur le Châtrier, moi, j'hallucine sur la capacité des fans brésiliens à avoir les places quand Fonseca joue. Non, mais c'est une vraie donnée, ça, parce que sur le match face à Djokovic, franchement, on a l'impression qu'on est au Maracana. Ouais.
Non, mais. Normalement, il n'y a pas de marché noir parce qu'ils ont vraiment sécurisé les reventes des billets. Mais je sais pas, ils arrivent toujours à se débrouiller, les Brésiliens. Donc, je pense qu'il y aura une belle ambiance ce soir. Et non, moi, je joue Fonseca. Allez, je joue la cote.
Tu les as, les chants pour Fonseca ou pas?
João Fonseca.
Je crois pas que c'est ça. Hein, mais...
Du mal, je sais pas, le portugais, c'était pas ma première langue.
Ouais. Faut répéter là, Eric.
Ouais. J'aurais peut-être pas dû te lancer directement en direct. Ouais. On est pas en direct.
Je suis meilleur.
On est pas en direct là, Gadolin.
Non,
on
est pas en direct.
Ça va. Ouais, c'est bon, pas à couper le montage. juste le reste du programme de la journée, Eric.
Le reste du programme de la journée, eh bien écoute, après le match entre Świątek et Kostiuk, on aura le deuxième match féminin qui opposera Elina Svitolina à la Suissesse Belinda Bencic. Et puis donc, pas avant 15h30, quoi qu'il arrive, le lucky loser néerlandais Jesper de Jong contre Sacha Zverev, qui a une énorme pancarte dans le dos, il paraît, je sais pas pourquoi. Ouais. Et puis la night session, je vous l'ai dit, Ruud Fonseca. Mais on suivra aussi Raphaël Rodard sur le Suzanne Lenglen contre son copain, je sais pas si son copain, je sais même pas s'ils se connaissent, enfin, son compatriote, Pablo Carreño Busta. Et puis moi, le Mensik Rublev m'intéresse aussi en fin de journée parce que.
Oui.
Et si Rublev brisait une sorte de malédiction? Vous savez qu'il a perdu 10 quarts de finale en Chelem.
Ah oui?
Et si cette année, c'était la sienne?
Oh là là là. Mais quand ils annoncent des trucs avec une telle intensité, à chaque fois, moi, il me fait vaciller.
Non, mais ce tournoi est tellement dingo, Georges, que tout peut arriver.
Juste un point sur Świątek, toujours en difficulté?
Oh, pas bien du tout, là, les gars. Je pense qu'elle va passer la trappe. 7-5, 4-1 et balle de 5-1 pour Marta Kostiuk.
On te retrouve tout au long de l'après-midi, évidemment. Hein, boîte à Algi. Tu vas me travailler ça.
Trois
tout à l'heure. Eric, il me désarçonne à chaque fois. Les amis, évidemment, on va continuer de parler des rendez-vous de l'après-midi sur RMC avec notamment un fabuleux Toulon UBB. Hein, avant-dernière journée, le top 14 du UBB qui est désormais sixième. Hein. Attention, parce que La Rochelle a gagné hier au bord du précipice pour aller se qualifier en phase finale. C'est à 15h30 à Mayol. Les codes, Christophe.
1,44 la victoire de Toulon, 21 le nul et 2,65 la victoire de l'UBB.
Pascal, c'est un match qui t'intéresse forcément. Qu'est-ce que tu imagines?
Ben, j'aimerais pas imaginer en fait ce que j'imagine. Donc parce que je suis supporter du rugby
du RCT club
toulonnais. Malgré tout, il ne joue plus rien et Bordeaux, comme tu l'as très bien dit, doit absolument se qualifier. C'est pas fait encore. Donc à Mayol, qui normalement est une forteresse compliquée, pas imprenable cette saison, mais compliquée. Mais malgré tout, je vois les Bordelais qui font tourner. Je vois les Bordelais l'emporter, gagner à Toulon, petitement, et avec un essai du Berti, c'est une cote à 3,90.
Dans un match, effectivement, où Jalibert et Bielbiaré ne sont pas sur la feuille de match, Lucu, lui, est annoncé remplaçant. Lionel, tu suis Pascal ?
J'ai un trou de mémoire, là. Si l'UBB ne se qualifie pas, qui est-ce qui passe à la place de l'UBB ?
Ah bah, il reste encore une journée, ça peut être Clermont, ça peut être La Rochelle.
Clermont, ah, il y a Clermont.
Il y a des confrontations directes.
Voilà, Clermont qui joue ce soir face au Racing, on va en parler.
Ouais, je suis Pascal.
Et il y aura un UBB Clermont la semaine prochaine, hein, qui s'annonce brûlant d'ores et déjà. Tu suis Pascal, Christophe ?
Ouais, aussi.
Et donc on va parler de Clermont Racing. C'est ce soir à 21h05. Là aussi, c'est donc très important. C'est un match en fait pour savoir qui va être peut-être le dernier qualifié pour la phase finale, pour les barrages. Les codes, Christophe ?
1,34 la victoire de Clermont, 25 le nul et 3,05 la victoire du Racing.
Et Pascal va donc nous dire ce qui va se passer.
Alors là, il y a un enjeu pour les deux équipes. Donc je vois un match extrêmement disputé qui va se gagner petitement avec une petite marge entre les deux équipes. Je vois néanmoins l'avantage du terrain. Les Clermontois l'ont porté et de 1 à 7 points d'écart pour une cote à 3,45. Si tel est le cas, bah, il y a une finale UBB contre Clermont ensuite la semaine prochaine.
Ouais, ça sera évidemment à suivre sur RMC. Lionel, tu suis ?
Ouais, 100%.
Christophe ?
Complètement.
À suivre sur RMC, évidemment, le top 14 cet après-midi, comme Roland Garros, comme les célébrations du Paris Saint-Germain. Et nous, eh bien, on va revenir dans quelques instants avec le combo jackpot de Christophe et les banquerolles. À tout de suite sur RMC.
Les Paris RMC, midi 13h.
Georges Quirino.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les Paris RMC, la dernière ligne droite. On est avec Pascal Duprat, avec Christophe Payet et Lionel Charbonnier. C'est la dernière ligne droite tout de suite. Le combo jackpot de Christophe.
Joao, prochain.
Les Paris RMC,
le combo jackpot de Christophe.
Et je vous rappelle qu'on va suivre évidemment tout au long de la journée les célébrations du Paris Saint-Germain sur RMC. Alors que Dominique Rizet, je vous le dis, a fait son entrée dans le studio. Pascal était comme un fou parce que c'est un grand fan de Faites Entrer l'Accusé. Ah, c'est ça, Pascal ?
Ah ouais, j'en ai pas manqué. Hein. Je crois que j'ai tous vu.
Oh, c'est incroyable ça.
Un truc de fou.
J'adore. Qu'est-ce que tu nous proposes, mon cher Christophe ?
Eh bien, pas mal de matchs amicaux préparatifs pour la Coupe du Monde et un petit match de rugby avec la Norvège qui battrait la Suède,
c'est
par exemple.
1,76.
Deux matchs nuls. Un entre la Croatie et la Belgique.
3,25 donc.
Et un autre entre les États-Unis et le Sénégal.
C'est à 3,10 la cote.
L'Autriche qui bat la Tunisie sans encaisser de but.
C'est coté à 2,10.
La Pologne qui bat l'Ukraine avec Lewandowski buteur, un grand classique.
Oui, c'est vrai. 2,75.
Et puis le Brésil qui bat le Panama par au moins 2 buts d'écart sans encaisser de but avec Vinicius buteur.
2,95 et ça me permet de dire que Carlo Ancelotti a dit hier que Neymar restera avec la sélection, quoi qu'il arrive.
Et puis du rugby avec Clermont qui bat le Racing entre 1 et 7 points, histoire que Pascal me donne au moins un bon.
Ah oui, c'est bon ça. Point. C'est coté à 3,45 et c'est exactement ce que nous a annoncé Pascal effectivement il y a quelques instants. Hein. J'ai l'impression qu'on le suit, Pascal, sur le rugby.
Surtout sur le rugby.
Code total
1042, 10 euros, plus de 10 000 euros de gains.
C'est pas mal ça.
Sans dinguerie.
Pascal, on suit ou pas ?
J'ai envie de te suivre, mais comme tu m'as dit qu'il y avait des formules où tu pouvais mettre deux erreurs, donc il y en a peut-être deux dans ton. Ton combo, j'ai du mal les deux nuls consécutifs, la Croatie, Belgique, États-Unis, Sénégal. Je vois les Sénégalais l'emporter aux États-Unis.
Ah oui, ouais. C'est possible.
Hey, les États-Unis, pas une grande campagne hein, avec Mauricio Pochettino, sélectionneur. Lionel.
Ouais, moi je vois trois erreurs. Attention, Brésil, deux buts d'écart contre le Panama. Le Panama, attention, c'est costaud. Le Sénégal,
d'accord. L'Écosse, non.
D'accord avec Pascal, et puis Norvège, Suède, ouais, moi je dirais trois erreurs.
Trois erreurs, ok. Lionel, j'ai l'impression
qu'ils aient joué.
Lionel, j'ai l'impression.
Non, j'ai dit une bêtise. Ils ont joué contre Curaçao.
Lionel, il est pas loin de nous dire que le Panama va être la surprise de la Coupe du Monde. J'ai l'impression que c'est son petit coup de cœur.
Mais gros outsider, Panama. Mais l'équipe est très bien. Moi, j'aime beaucoup.
On va vérifier les comptes bancaires quand même là-bas, là, histoire de.
J'aimerais bien.
C'est peut-être ta banquerole est là-bas en fait. C'est pour ça qu'elle est négative.
Si tu comptais sur ma banquerole pour que je la foute en Panama.
Tiens, on retourne à Roland Garros. Eric Salio, parce que l'une des grandes favorites encore au tapis, c'est ça?
Absolument. Iga Świątek battue en huitième de finale par Kostyuk, l'Ukrainienne, Marta Kostyuk, qu'on savait très en forme. Elle avait gagné à Madrid. Elle avait un petit pépin physique, donc elle s'était un petit peu cachée. Elle n'avait pas joué Rome. Et là, elle vient de s'imposer en deux manches seulement, hein, 7-5, 6-1. Vous savez que depuis son contrôle antidopage positif, Iga Świątek n'a plus jamais atteint une finale sur terre battue. Elle, la terrienne absolue. Et pourtant, elle était allée faire un petit stage de récupération de permis chez Rafa Nadal. Bah, ça n'a pas suffi. Donc, Kostyuk qualifié, elle jouera peut-être une compatriote en quart de finale, puisqu'elle jouera la gagnante du match entre Elina Svitolina et Belinda Bencic. Mais c'est un nouveau coup de tonnerre ici. On aura un couplet gagnant inédit, ou un couple gagnant inédit. C'est la leçon de cette journée déjà.
Quel Roland Garros, effectivement. Après Coco Gauff éliminé hier, la gagnante sortante sont autour de Iga Świątek, donc de prendre la porte. Allez, la banquerolle tout de suite.
Les paris RMC.
Et une belle tête de vainqueur.
Banquerolle dominée par Pascal Duprat, qui ne fait pas que prendre des selfies avec Dominique Rizet. Il est également très très fort en Paris. Tu domines avec 585 euros, Pascal. Qu'est-ce que tu nous proposes?
D'abord de l'humilité, s'il te plaît.
Ah,
la France bat la Côte d'Ivoire, l'UBB gagne à Toulon, Clermont bat le Racing, cote totale à 11,21, et on ne met que 10 euros.
Parce qu'on le fait ça en toute humilité. Alors, on va pas mettre 50 euros.
Mais non.
Ce serait prétentieux.
C'est pas le moment.
C'est pas la spécialité de la maison. Je suis deuxième, avec 480 euros. Il va falloir que je revienne là, hein. Qu'est-ce que j'annonce, moi? La France bat la Côte d'Ivoire. Victoire de la Croatie contre la Belgique. Victoire de Toulon contre l'UBB. Victoire de Clermont contre le Racing. Fond sec. Barre rude à Roland Garros ce soir en night session à suivre sur RMC. La cote est à 12,91. Je mise 10 euros en toute humilité. Christophe Payet, en toute prétention, avec 386 euros. Qu'est-ce que tu imagines?
Et ben moi, je vois la France battre la Côte d'Ivoire avec un but de Kylian Mbappé. La Croatie qui ne perd pas contre la Belgique avec moins de 3,5 dans le match. L'UBB qui gagne à Toulon, Clermont qui bat le Racing. Et la différence, c'est Rude qui bat Fonseca. La cote, c'est 10,84. Et moi, j'ai un peu plus de panache que vous, messieurs, parce que j'ai une première place à aller chercher. Je mise 36 euros.
Ouais, mais j'allais dire, tu allais le faire en toute prétention. Et c'est exactement ce que tu nous fais. Lionel Charbonnier, avec moins 40 euros. Qu'est-ce que tu nous annonces?
Bah, j'ai une toute petite banquerolle pour l'instant, mais écoute, je vais jouer la France bat la Côte d'Ivoire, Mbappé buteur et Olysée décisif. Ensuite, la Croatie ne perd pas contre la Belgique, moins de 3-5 dans le match, et Clermont qui bat le Racing. Alors apparemment, ça serait 2,54 pour l'instant.
Oui, mais en attendant la cote de France Côte d'Ivoire.
La cote de la France, voilà. Ok, voilà. Bon, mais je joue 10 euros.
Tu joues 10 euros, sereinement, ça tranquille.
Sera un tour de 3, donc tu seras sur une cote à 7 à peu près.
Merci les gars, le week-end prochain, on se mettra vraiment, vraiment en mode Coupe du Monde, hein, évidemment, pour lancer les hostilités sur RMC. Merci Pascal, merci Lionel, merci Christophe.
Salut à tous.
Salut à tous.
Les paris RMC
avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Moi, je vous retrouve ce soir dans Bartoli Time à partir de 19h avec Sarah Pitkowski. Évidemment, on va revenir avec des anciens joueurs parisiens sur ce nouveau sacre. On sera tout proche des célébrations au Parc des Princes. Et puis, alors que Stephen Brun s'installe pour le Stephen Brunch, Vincent Collet sera avec nous ce soir, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. Exactement, pour parler de Victor Wembanyama en finale NBA après avoir gagné le match 7 face au Thunder, les larmes et tous les poils. Moi, je te dis, ça m'a saisi. Ah bah attends, mais sans déconner, je rigole, quoi, j'ai pas dormi. Même Pascal a pas dormi, il a regardé.
Oui, Pascal, c'est toujours en toute humilité, par contre.
Ouais, bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'on a au programme du brunch?
Bah, t'imagines bien qu'on va ouvrir une grande page du Paris Saint-Germain pour le deuxième sacre du Paris Saint-Germain avec plein d'anciens joueurs du PSG qui viendront nous raconter leur match hier parce qu'ils étaient tous à Budapest. On se posera la question, peut-on envisager une troisième étoile pour le Paris Saint-Germain? Quels ajustements faut faire? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il ne faut pas changer? On va parler tennis aussi avec Laurent Raymond, le coach de la Coupe Davis et ancien coach de Moïse Kouamé. On reviendra sur le parcours de Moïse Kouamé, puis on reviendra aussi sur ce tableau de Roland Garros qui est fou. Il y a des matchs qui durent 5h30 avec des garçons qu'on ne connaît pas.
Mais 5h58 hier, c'est Rundolo Landalus.
Exactement, c'est complètement dingue. Et puis on va terminer avec une belle page basket, tu l'as dit. C'est le premier match que je fais cette saison en plein milieu de la nuit. Je le paye ce matin, je le dis, mais je suis content d'être resté éveillé parce que j'ai vu un grand match au 7.
Incroyable.
Je me suis régalé, donc on reviendra sur le débrief de ce match-là. Et puis on aura en entretien Rudy Gobert qui était avec nous dans nos studios hier à l'intérieur de l'équipe de France et des Minnesota Timberwolves qui viendra nous parler également de sa relation avec Victor Wembanyama. C'est un joli programme. On vous attend au 32-16. Appelez-nous, supporters du PSG, supporters de l'Olympique de Marseille aussi. On en aura un autour de la table. Erwan Abotret viendra nous redonner ses sensations d'avoir vécu un deuxième titre de champion d'Europe pour le Paris Saint-Germain. C'est tout de suite dans le Stephen Brunch.
RMC jusqu'à 15h. Stephen Brunch.